Ndikomanyanga.
Bienvenue à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce mardi 12 novembre 2019. Nous voici d'abord l'essentiel. Une personne a rendu son âme et plusieurs blessés au cours des échauffourées survenues entre les membres des partisans de DDDSN le dimanche passé en commune Nyamurenza. Nous sommes dans la province de Ngozi, confirme les sources policières sur place. La commission Vérité et Réconciliation appelle ceux qui tombent sur les restes humains lors des travaux de construction de les suspendre pour que cette commission puisse les déterrer et les enterrer dignement. Vous entendrez le président de la CVR dans ce journal. Près d'un demi-million de femmes burundaises utilisent des méthodes modernes de contraception, ce qui ressort du rapport de l'association Planning Familial édition 2020 sorti ce lundi et qui parle de plus de 300 millions de femmes et de filles qui utilisent aujourd'hui cette méthode dans 69 pays. Et la chronique santé de ce mardi, nous allons revenir sur l'hypertension pulmonaire, deuxième partie. François Kimana sur la mise en onde.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Ouvrons ce journal par la justice transitionnelle. La commission Vérité et Réconciliation demande aux gens qui découvrent des fosses communes alors qu'ils sont en cours de travaux de construction ou autres de les suspendre. Le président de cette commission indique que cela permet à la commission de déterrer et enterrer dignement les restes des corps humains, mais pour ceux qui ont déjà érigé des infrastructures sur ces fosses, Pierre Claver Naïtchelier dit qu'il y a aussi moyen d'y placer des monuments de mémoire ou de réconciliation. Suivez plutôt Pierre Claver Naïtchelier, il est président de la commission Vérité Réconciliation.
La gestion des fosses communes est complexe sous trois angles. Le premier aspect, c'est de dire aux investisseurs qui découvrent des fosses communes, nous leur demandons de suspendre provisoirement, de nous donner le temps de nous déployer sur ce site et après une enquête minimale, nous leur demandons de poursuivre leurs travaux de développement. Le deuxième message, c'est de leur dire aussi que il ne sert à rien de cacher les fosses communes qui sont découvertes. Pourquoi? Parce que autour de ce site, il y a la population éventuellement victime. Il faut que la CVR puisse exhumer ces restes humains, enquêter et respecter aussi les morts. Troisième message, c'est de dire que même là où il y aurait déjà des infrastructures, lorsque nous avons l'information, nous faisons un rapport au pouvoir public et comme il faut ériger des monuments de la mémoire, des monuments de la réconciliation, nous travaillerons avec la population, nous travaillerons avec le pouvoir public pour voir quel type de monument on peut ériger sur le site où on a construit des infrastructures de grande valeur. Je le dis pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un site où il y a un bâtiment de 10 milliards de nos francs. Est-ce qu'il faut démolir ce bâtiment de 10 milliards? C'est une grande question. Mais même dans les pays développés qui ont connu des drames plus difficiles que nous, ils ont connu ce genre de situation. L'important, c'est le respect aux morts pour que les rescapés éventuels puissent passer et s'incliner devant leurs morts, devant leurs parentés.
La CVR annonce également que le rapport annuel sera présenté au mois de décembre prochain concernant les activités de cette commission pendant la période électorale. Pierre Claver Naïtchelier fait savoir que pendant cette période, les commissaires se concentrent aux travaux de bureau. On l'écoute encore une fois.
Lorsque commence la campagne électorale, le terrain est dégagé pour les candidats, le terrain est dégagé pour les électeurs potentiels. Le discours de la campagne électorale ne peut pas cohabiter avec le discours de la commission Vérité et Réconciliation. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux discours, je dirais, qui n'évoluent pas ensemble. Lorsque viendra la campagne électorale, les commissaires, les cadres vont se concentrer parce que nous avons une documentation riche que nous allons exploiter, analyser, dépouillés. Nous avons des dépositions déjà disponibles. Nous avons aussi des témoignages par audio que nous allons transcrire pour en tirer des informations avant de poursuivre le travail d'enquête, d'investigation et peut-être celui des audiences publiques ou à huis clos, comme le prescrit la loi.
Et à quand le rapport d'étape devant les deux chambres réunies, qui vont d'ailleurs bientôt terminer leur législature?
Dans la loi nouvelle, la CVR a l'obligation de déposer un rapport d'étape au mois de décembre, parce que nous avons été nommés au mois de décembre. L'Assemblée nationale et le Sénat seront encore là. En réalité, chaque année, il y a un rapport d'étape. Il y a ce que nous faisons. Nous devons le faire savoir, parce que l'opinion sait que nous sommes sur le terrain en train de travailler. Le Parlement attend ce rapport qui est pratiquement prêt, en tout cas qui devrait être disponible au plus tard à la fin du mois de novembre.
Le président de la commission Vérité et Réconciliation était au micro de mon confrère Aubin Niyunguru. Une courte pause.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Page sportive à présent. L'équipe nationale de football féminin a pris l'avion ce mardi en destination de Dar es Salaam en Tanzanie, où il va représenter le Burundi dans la compétition de la CECAFA qui démarre le 16 du mois en cours. Daniela Nibimegna, coach de l'équipe nationale féminine, fait savoir qu'ils se sont mieux préparés. Suivez-la, joué au téléphone par Jean-Marie Vianney Guindakouman.
Nous nous sommes préparés bien, nous sommes prêtes, nous n'avons pas peur.
Quel est l'état de santé des joueurs?
Les joueurs sont en bonne santé, il n'y a aucune blessée.
Vous avez des informations pour les équipes adverses que vous allez affronter là-bas en Dar es Salaam?
Oui, on en a, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontrera. Parce que c'était en 2016, on a joué ensemble. Maintenant, nous avons, je dirais, on sait comment faire.
Quelle est la nouveauté que vous amenez pour le moment, après 2 ans sans se présenter dans les compétitions?
Ce que nous amenons, c'est d'abord la maturité. Parce qu'avant, c'était comme si c'était la première compétition. Mais maintenant, on est habitué. La deuxième, il y a aussi d'autres matchs qu'on a joués. Par exemple, il y a des joueuses de moins de 20 ans qui ont joué 2 matchs, des éliminateurs de moins de 20 ans. En tout cas, pour le moment, on a de la maturité.
Quel appel assez aux amateurs de football burundais?
Je dirais que les amateurs qui nous soutiennent comme les hommes, parce qu'on est capable d'arriver loin. L'objectif d'abord, c'est de passer le premier tour. Et après, on va voir ce qui va suivre.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Passons à la chronique santé, comme toujours mardi, en attendant les autres éléments de ce journal. L'hypertension pulmonaire peut être diagnostiquée et traitée à l'aide de différents médicaments, dont le vasodilateur, mais sous prescription médicale. Le pneumologue explique que les médicaments ralentissent plutôt l'évolution de la maladie. Docteur Richard Ndaikengurukiye avait expliqué dans la chronique précédente de la santé que cette maladie peut être causée par différentes maladies respiratoires chroniques, dont l'embolie pulmonaire. La chronique santé de ce mardi avec Ornella Mucho.
L'hypertension pulmonaire peut être diagnostiquée selon le pneumologue Richard Ndaikengurukiye. Il explique que le diagnostic repose sur une batterie d'examens qui permettent d'évaluer le fonctionnement du cœur et des poumons.
Le diagnostic de l'hypertension artérielle et pulmonaire se fait par le cathétérisme cardiaque droit qui mesure la pression artérielle pulmonaire qui doit être supérieure à 25 mm de mercure pour parler d'hypertension artérielle pulmonaire. Cependant, l'échographie cardiaque garde une place très importante parce qu'elle permet d'estimer cette pression artérielle pulmonaire et également de préciser le retentissement sur les cavités cardiaques droites.
La limitation de l'activité physique est l'un des conseils donnés à un patient à part les médicaments à prendre qui, selon le spécialiste, dilate les vaisseaux sanguins.
Les différents traitements qu'on utilise via les vasodilatateurs qui permettent la vasodilatation des artères pulmonaires. Il y a également les inhibiteurs de la phosphodiestérase qui est un inhibiteur enzymatique et impliqué dans la physiopathologie de cette maladie. Il y a également des antagonistes des récepteurs de l'endothélie qui jouent également le rôle dans la physiopathologie de cette maladie.
Être inactif est l'une des conséquences de cette maladie, selon Dr Richard Ndekengurukiye.
L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie chronique dont les traitements ont pour but de la stabiliser. Donc en soi, elle ne guérit pas. Donc l'hypertension artérielle pulmonaire a des conséquences énormes sur l'activité. La personne atteinte n'est plus active parce qu'elle a une dyspnée qui l'empêche de travailler. Et par après, au vu de à long terme, c'est une maladie qui va entraîner une insuffisance respiratoire et le décès.
L'arrêt du tabac contribue à améliorer la fonction pulmonaire en général, ce qui permet d'atténuer les symptômes de la maladie, comme l'explique le pulmologue Richard Ndekengurukiye.
Merci à Ornella Mucho pour cette chronique santé. Je vous le dis en titre, une personne est morte et d'autres blessées dans le chef de colline Chosa, en commune Nyamurenza, dans la province d'Ngozi, suite aux échauffourées éclatées entre des militants qui seraient du parti CNDD-FDD et CNL en province Ngozi. C'était ce dimanche, comme confirmé par la police. Le parti CNL Ngozi déplore plus de 30 arrestations de ses militants depuis ce dimanche, dont ses trois représentants des les communes. Il accuse les militants du CNDD-FDD d'être à l'origine de ces violences, ce que rejette le parti au pouvoir Ngozi. Les détails avec Elini Berenivikita.
Ces échauffourées se sont éclatées entre les militants du parti CNDD-FDD et le parti CNL, après que son dernier ait été empêché d'ouvrir sa permanence de la commune Nyamurenza en province Ngozi, selon des sources au sein du parti CNL. Selon des informations en provenance d'Ngozi, les scènes de violence sont les collines de Choza, et Kigina, mais également en Goma, où les militants du parti CNL disent avoir été embuscadés par les militants du parti CNDD-FDD, conduits par le responsable de ce parti en commune Gashikanwa, des allégations que refute ce dernier. Il explique qu'il n'était pas dans les parages au moment de ces violences. Des informations données par la police disent que trois blessés ont été identifiés en commune Kiremba. De plus, le chef de colline Choza, en commune Nyamurenza, a été également blessé. Un membre du parti CNL, Nestor Nsengiyumva, a aussi succombé des coups lui infligés, témoignent les responsables du parti CNL Ngozi. Au sein de ce parti, l'on affirme que jusqu'au soir de ce lundi, plus de 30 arrestations ont été répertoriées. Parmi elles, Christian Chiteletse, président du parti CNL en commune Gashikanwa, Saleh Bizimana, président de ce parti en commune Nyamurenza, et Emmanuel Nirandekura, responsable communal de ce parti en Marangara. De son côté, le parti CNDD-FDD Ngozi rejette les accusations du parti CNL. Selon le responsable de ce parti dans cette province, les militants du parti CNL violentaient toute personne qu'ils rencontraient ou retrouvaient à son domicile. Il déplore également les trois membres de son parti blessés, dont un des responsables, des jeunes Imbonerakure en commune Kiremba. Ce secrétaire du parti CNDD-FDD en province Ngozi s'étonne de ces violences, expliquant que la cohabitation entre ces deux partis était jusque-là bonne.
Merci à Niberini Bigila pour tous ces détails. Économie à présent, la lutte contre la fraude et la corruption ainsi que la lutte contre le secteur informel sont quelques-unes des mesures prises par l'Office burundais de recettes OBR en vue d'augmenter la collecte des recettes. Dans un rapport récemment sorti dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire et de la journée du contribuable, l'OBR souligne que plus de 84 000 contribuables ont été immatriculés. Les détails avec Emery Kanyang.
Selon ce rapport sur les 10 ans d'activité de l'OBR sorti au mois d'octobre de cette année, il indique que le Doing Business Index, notamment la rapidité dans la création des sociétés, le paiement des impôts et taxes sans oublier le commerce transfrontalier, dans la facilitation des affaires telles qu'évaluées par la Banque mondiale, ont été poursuivis. La lutte contre la fraude, la contrebande et la corruption ont été améliorées et les dénonciateurs sont rémunérés à concurrence de 10% du montant des recettes en principal recouvré par l'OBR. a également fait objet de la croissance des impôts et taxes perçus. C'est la lutte contre le secteur informel qui a poussé cet office à attribuer des numéros d'identification fiscale aux personnes physiques ou morales. Pour les petits et micro-contribuables, c'est ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions de francs burundais. Les moyens contribuables ont un chiffre d'affaires annuel situé entre 100 millions et 1 milliard de francs burundais, alors que les grands contribuables ont un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 1 milliard de francs burundais. Ce rapport renseigne que depuis 2014, au mois d'août de cette année, les personnes physiques sont à plus de 64 000 et les personnes morales sont à plus de 20 000. La décentralisation des services, les recherches et études ont contribué à optimiser la collecte des recettes. Ce rapport montre également que sur des dépenses publiques de plus de 1 040 milliards de francs burundais durant l'exercice budgétaire 2018-2019, l'OBR a contribué à hauteur de plus de 897 milliards de francs burundais. Et l'effectif des employés de cet office est passé de 73 en 2010 à 1002 au mois d'août 2019. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les défis rencontrés durant les 10 ans ainsi que les perspectives d'avenir.
Merci à Mireille Kanyang. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à vous qui venez de nous capter en cours de route, je vous en rappelle quelques titres. Une personne n'est rendue là, mais plusieurs ont été blessés au cours des échauffourées survenues entre les membres des partis CNDD et CNL. Dimanche passé, en commune Nyamurenza, nous sommes dans la province de Ngozi, comme confirmé par les sources policières sur place. La commission Vérité et Réconciliation appelle ceux qui tombent sur des restes humains lors des travaux de construction de les suspendre pour que cette commission puisse les déterrer et les enterrer dignement. Vous avez entendu le président de cette commission. Et près d'un demi-million de femmes burundaises utilisent des méthodes modernes de contraception, ce qui ressort d'un rapport de l'association Planning Familial édition 2020 sortie ce lundi et qui parle de 300 millions plutôt de femmes et filles qui utilisent aujourd'hui cette méthode dans 69 pays. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.